RFI. Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, Mondial Sport, seconde manche du week-end, toujours en direct jusqu'à 22h, temps universel du football africain, avec le coup d'envoi de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le Kenya fait un pas de plus vers la phase finale, en battant l'Éthiopie 3-0. Sébastien Minier, le patron des Harambee Stars, sera avec Thomas Saint-Léger dans un instant pour revenir sur ce match et faire un point d'étape sur son action à la tête de la sélection. Le monde du football brésilien joue très à droite à l'occasion de la présidentielle dans le pays. Plusieurs anciennes gloires de la Seleção ont déclaré leur flamme à Jair Bolsonaro, arrivé largement en tête du premier tour. Pourquoi un tel engouement pour un homme connu pour ses propos racistes, homophobes et misogynes? Élément de réponse avec François Cardona. La Coupe d'Europe de rugby, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour les clubs français. Ils avaient tous gagné hier, ils ont tous perdu aujourd'hui. Lyon, Castres, Toulon, trois de chute pour la suite et la fin de la première journée de la phase de poule. Enfin, le grand retour de la NBA sur les parquets nord-américains à partir de mardi soir. Golden State, la franchise californienne est bien décidée à faire respecter l'adage « jamais 203 », titre d'affilée, mais la concurrence sera plus rude que jamais, notamment avec les Lakers de Los Angeles et leur nouvelle méga-star, LeBron James. Grande page basket à la fin de cette émission.
Mondial Sport sur RFI.
Allez, comme hier soir, on démarre donc ce Mondial Sport avec la CAN 2019 avec vous, Thomas Saint-Léger. Bonsoir.
Bonsoir, Christophe.
La troisième journée des éliminatoires à peine passée, la quatrième débutée aujourd'hui.
Avec deux rencontres et une surprise d'abord dans le groupe le plus serré, le groupe K, la victoire de la Guinée-Bissau sur la Zambie 2-1 juste avant ce match. Toutes les équipes comptaient 4 points, un calcul simple et vous comprendrez que les Bissau-Guinéens prennent les commandes de cette poule avec 7 points.
7 points aussi pour le Kenya dans le groupe F.
Les Harambee Stars ont parfaitement négocié le virage de ces éliminatoires, c'est-à-dire la double confrontation contre l'Éthiopie, 0-0 à l'extérieur mercredi dernier, 3-0 aujourd'hui à la maison. Ça fait 4 points en 2 matchs, 7 en tout vous le disiez, et une première qualification depuis 2004 qui s'esquive un peu plus. Le grand point d'interrogation dans ce groupe, c'est le sort qui sera réservé à la Sierra Leone. Vous le savez, la fédération du pays est suspendue pour ingérence gouvernementale. Les deux rencontres face au Ghana ont été annulées sans plus de précision pour l'instant concernant la redistribution des points.
Le Kenya approche d'une qualification historique donc, et pourtant c'était mal parti.
Très mal parti même, avec une défaite d'entrée en Sierra Leone. Depuis, le Kenya dans ses éliminatoires, c'est deux victoires dont une face au Ghana, 4 buts marqués, 0 encaissé, un match nul, une dynamique qui coïncide avec l'arrivée sur le banc de touche de Sébastien Minier, l'ancien sélectionneur du Congo, acteur et témoin de ce redressement assez intéressant du football kényan. Et pourtant, vous allez l'entendre, lui-même a eu du mal à y croire.
Quand j'arrive il y a 5 mois, on était à une défaite contre le Sierra Leone. Depuis, bon, on a quand même emmagasiné des points. Tout ça avec 3 matchs, avec 3 clean sheets. Et puis aujourd'hui, qui plus est, on a montré quelques qualités offensives non négligeables. Une qualité de jeu intéressante. Donc ça laisse augurer de belles choses. Maintenant, il faut canaliser tout ça, qu'on ne s'enflamme pas, puisqu'on est... Effectivement, si le Sierra Leone ne revient pas dans la danse, on est ce soir qualifié. Mais si le Sierra Leone est là, il faudra être vigilant. Il faudra aller chercher des derniers points au mois de novembre contre eux à domicile.
Pour revenir sur la double confrontation face à l'Éthiopie, il y a évidemment une progression qui se lit dans le score entre les deux matchs. Qu'est-ce que vous avez changé entre le match en Éthiopie et le match chez vous aujourd'hui?
Je pense déjà, j'ai eu les garçons un peu plus longtemps sous ma coupe. Là, on a eu 4 jours pour travailler, pour essayer de s'améliorer et aussi prendre note des caractéristiques de l'adversaire. On a bénéficié aussi aujourd'hui d'un deuxième homme. Hein. J'avais challengé un petit peu dans la presse notre public, qui jusque-là n'était pas très présent. On avait été sublimé par l'atmosphère en Éthiopie. Et je pense que quand on voit la réponse fournie aujourd'hui par nos fans, là aussi on a gagné notre match.
Ça fait 15 ans que le Kenya n'a pas participé à la CAN. Vous parliez d'une affection jusque-là, on va dire, timide du public. Aujourd'hui, vous sentez vraiment quelque chose de différent? C'est un défi ou au contraire une pression qui peut être négative?
Ça ne doit être que positive. Il y a 5 mois de ça, on n'était nulle part, on n'existait en rien, on n'ambitionnait même pas de participer à cette CAN. C'était plutôt préparer 2021. Donc c'est ce que j'ai dit à mes garçons, il n'y a que du plaisir à prendre. Vous arrivez à faire chavirer les foules, à les emmener dans ce stade, c'est pas aujourd'hui pour évoluer sous pression, c'est pour prendre uniquement du plaisir. J'avoue que les garçons m'ont bluffé parce que j'ai un mélange d'expérience, mais on est quand même jeune en termes de haut niveau. À part Wanyama qui est à Tottenham, j'ai pas vraiment de garçons qui côtoient le haut niveau. Je pouvais avoir quelques doutes sur la manière dont on allait se comporter dans un full stadium, mais les mecs ont été géniaux et pour l'instant, il y a une part d'insouciance aussi qui nous accompagne. Et puis, on a quelques atouts pour embêter du monde. C'est le début de quelque chose. J'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler sereinement, que le public, on va réussir à le fidéliser. Alors aujourd'hui, l'État avait fait un effort et l'entrée et l'accès au stade était gratuit. Est-ce qu'on aura autant de monde le jour où ça va être payant? Voilà, c'est des tas de paramètres sur lesquels je n'ai pas encore de réponse.
À titre personnel, ça fait moins de 6 mois que vous êtes en poste au Kenya. Est-ce que vous pensiez arriver aussi vite là où vous êtes aujourd'hui?
Je me doutais qu'il y avait un potentiel parce que je les avais joués avec le Congo quand j'étais adjoint de Claude Leroy lors de mon premier passage au Congo. J'étais venu faire un nul là-bas et je me suis dit, il y a un peu de qualité. Un pays de 50 millions d'habitants, je me disais qu'il y avait quand même un potentiel si on voulait travailler sérieusement. Et puis, le foot était en sourdine depuis pas mal d'années, donc je pense que voilà, il y avait une étincelle à faire prendre. En ce moment, on y arrive, j'espère que ça va pouvoir continuer. Il va falloir aussi canaliser tout le monde pour qu'on apprenne ce qu'est le haut niveau. Quand je dis tout le monde, pas seulement mes joueurs, aussi l'environnement, que ce soit dirigeant, gouvernement, pour que tous on tende vers le haut niveau. Ça va être aujourd'hui aussi un des défis sur lequel je vais devoir m'atteler.
Voilà des défis pour Sébastien Minier et encore 2 matchs pour valider la qualification des Harambee Stars.
Et pour tous les autres, ou presque, il reste 3 rencontres à disputer.
Oui, la grande majorité des affiches de la 4e journée, ce sera pour mardi. Quelques informations déjà. D'abord, le forfait confirmé de Mohamed Salah pour le match de l'Égypte au Swaziland. Le pharaon de Liverpool s'est blessé vendredi soir au cours de la première manche, entre guillemets, du duel entre ces deux équipes. Il souffre d'une élongation. Il est d'ailleurs déjà rentré en Angleterre.
Autre absence plus discutée, celle-ci, Emmanuel Adebayor ne jouera pas la rencontre Gambie-Togo.
L'attaquant des Éperviers fatigué, ce sont les mots de son sélectionneur Claude Leroy. Explication assez énigmatique, d'autant qu'Adebayor avait déjà manqué le premier match à Lomé vendredi. L'ancien joueur d'Arsenal s'était plaint de la pelouse, il avait quand même assisté à la rencontre. C'est, on peut le dire, le service minimum pour le capitaine d'une équipe en grande difficulté. En tout cas, aujourd'hui, ses états d'âme divise le pays. Reportage de Comlan Eclou.
Adebayor a pesé lourd dans la contre-performance des Éperviers face à la Gambie. Une absence que nous explique le sélectionneur Claude Leroy.
Vous savez que sur ce terrain-là, ils ne sont pas du tout à l'aise, que ça lui fait très vite souffrir de problèmes articulaires et tendineux, et qu'en plus, depuis quelques jours, il est très affaibli, il ne se sent pas en forme. Dans ces cas-là, on en a discuté tous les deux hier soir, ça sert à rien de le faire jouer contre toute envie qu'il ait de jouer. C'est mieux de laisser au repos, qu'il récupère et que nous on fasse un résultat et qu'on puisse l'avoir en plein boom au mois de novembre pour le match contre l'Algérie.
Sur la qualité de la pelouse, beaucoup de supporters donnent raison à Emmanuel Adebayor. Mais le capitaine des Éperviers aurait dû jouer, estime-t-il.
C'est un droit qu'il puisse réclamer. Qu'on reparle la pelouse. Mais vu la situation dans laquelle nous sommes, il devrait quand même se sacrifier pour ne fût-ce que cette fois-ci.
Normalement, il allait jouer. Mais comme il n'a pas joué, moi, ça m'a déçu vraiment.
Tout compte fait, c'est lui le capitaine. Normalement, il devait jouer, aller à la fin, pouvait s'entendre et puis trouver une solution.
C'est un alibi aussi pour pouvoir s'échapper au match. Une manière pour lui de rester à côté, voire de laisser la place aux jeunes de faire aussi leur preuve sur le terrain. On n'a pas été trop dessus de son attitude quand même.
C'est sa décision. C'est sa décision. Oui, je respecte bien sa décision.
C'est également l'avis de Jean-Louis Kouchonou, entraîneur et consultant en football.
Adebayor, quelque part, moi je dis, il a raison pour parler de cette pelouse, mais c'est le moment qui n'était pas bien choisi. Donc on a encore besoin d'Adebayor pendant quelques temps pour qu'il puisse donner un peu plus de vivacité au football togolais. On en a besoin de lui encore pendant 1-2 saisons, moi je dis. Si lui il est là, c'est un perturbateur. S'il fixe un défenseur, notamment le libéro, ben, 2 autres défenseurs ne vont pas vouloir quitter et laisser Adebayor tout seul avec le libéro parce qu'on connaît sa pointe de vitesse, on connaît ses dribbles et tout. Adebayor et Claude Leroy, ils ont toujours été ensemble. Maintenant, pour que Claude Leroy aussi puisse avoir du résultat, c'est à lui d'avoir, pas de pression, mais de discuter avec Adebayor pour le convaincre, pour qu'il puisse essayer de donner un peu plus de l'expérience aux jeux des Togolais.
Les éperviers ont quitté Lomé ce dimanche pour Banjul, où ils joueront leur Vatou. Comme l'a éclos Lomé RFI.
Football toujours côté club, c'est officiel. Thomas Patrice Neveu prend les rênes du Oroya de Conakry.
C'est un retour en Guinée pour l'ancien sélectionneur du Sili National. C'est aussi un beau défi. Sous la houlette de Victor Svinka, le Oroya s'est installé récemment dans le Grand 8 continental avec un quart de finale de Ligue des Champions. Pour la suite, les dirigeants visent encore plus haut. Bref, les ambitions sont là. Alors forcément, Patrice Neveu s'est laissé séduire par le projet.
Le club de Roya a une progression crescendo. Bon, là, ils sont arrivés en quart de finale de la Ligue des Champions. Le président Antonio a fortement investi dans un centre pour le développement des jeunes à Dubroca. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est pouvoir aussi continuer son projet, m'appuyer sur la jeunesse pour essayer de rentrer quelques jeunes dans l'équipe. Il met beaucoup de moyens, comme l'avait fait Moïse Katumbi, j'ai bien connu en République démocratique du Congo, pour essayer d'apporter le maximum à son pays. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est important d'être ambitieux. Il n'y a que l'investissement des hommes qui va payer l'unité, aussi l'écoute de mes joueurs, de mon staff. Et après, je dirais que les résultats, on est, vous le savez comme moi, on ne peut rien prédire à l'avance.
Patrice Neveu, le nouvel entraîneur du Oroya de Conakry.
Des nouvelles pour finir, Thomas, de deux anciens internationaux ivoiriens.
Et pas les moins connus. Didier Drogba, d'abord libre comme l'air, un an et demi après son arrivée à Phoenix. Et après 13 buts marqués en 21 matchs, le meilleur scoreur de l'histoire des éléphants quitte le club américain. Pas d'annonce encore sur l'éventuelle suite donnée à sa carrière. Mais on le rappelle, Christophe, ça ne va pas nous rajeunir. Didier Drogba affiche déjà 40 ans au compteur. Et puis, vous le savez, c'était un week-end élection locale en Côte d'Ivoire. On vous avait présenté la semaine dernière un candidat atypique, Bonaventure Kalou. Eh bien, l'ancien joueur du PSG aurait réussi son pari. Il annonce aujourd'hui son élection à la tête de la ville de Vavoua. Appelez-le Monsieur le maire.
Voilà pour l'actualité africaine. Petit rappel toujours utile, surtout pour la semaine à venir. Tous les résultats de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2019 seront à retrouver au fur et à mesure sur le site africfoot.rfi.fr. Mais qu'arrive-t-il aux stars du football au Brésil? Alors que le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 28 octobre prochain, ils sont nombreux, parmi les anciennes vedettes de la Seleção, à avoir pris fait et cause pour Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, désormais grand favori pour la magistrature suprême après avoir obtenu 46% des voix au premier tour. Pour en parler, on rejoint notre correspondant au Brésil, François Cardona. Bonsoir François.
Bonjour Christophe.
Bolsonaro, rappelons-le, c'est un ancien capitaine de l'armée, âgé de 63 ans, aujourd'hui député de l'État fédéral de Rio. Il inquiète les femmes, les minorités et les étrangers par ses prises de position radicales. Et pourtant, plusieurs stars du ballon rond donc le soutiennent ouvertement.
Oui, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, des joueurs de football brésilien qui ont tous décidé de se ranger derrière Jair Bolsonaro, vous l'avez dit. Connu pour ses positions racistes, machistes, misogynes, homophobes, et pourtant, il part favori pour le second tour. Et plusieurs gloires du football brésilien ces dernières semaines se sont manifestées ouvertement sur les réseaux sociaux pour appuyer ce candidat d'extrême droite. Plutôt inédit, puisque les footballeurs au Brésil s'expriment rarement sur des sujets politiques, à part pour ceux qui se présentent à une élection, comme l'ancien joueur Romario. Et tous ces joueurs brésiliens sont tous très soucieux de leur image, et pourtant, ils n'hésitent pas à soutenir Jair Bolsonaro. Ouvertement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur lesquels ils sont suivis par des centaines de milliers de fans.
Et celui qui a affiché le plus tôt sa sympathie envers Bolsonaro, c'est Ronaldinho.
Oui, l'ancien joueur du PSG, du Barça, récemment il a publié une photo d'un maillot de la Seleção avec le numéro 17, c'est le code de Jair Bolsonaro pour voter pour lui au moment de voter sur les urnes électroniques, tout un symbole. Ronaldinho, qui est connu pour ses positions plutôt extrêmes à l'extrême droite, il a rejoint un petit parti politique évangélique très conservateur et qui soutient Jair Bolsonaro depuis plusieurs mois maintenant. Et puis il y a aussi Rivaldo, le ballon d'or, qui lui poste des vidéos de meetings politiques et qui pense que Bolsonaro est le candidat idéal, il le dit sur les réseaux sociaux. Le célèbre Cafu, lui aussi ancien défenseur, capitaine, soutien de Jair Bolsonaro, tout comme Felipe Melo, qui joue au au Palmeiras, un des plus grands clubs brésiliens, et qui a tout simplement dédié un but au futur président Bolsonaro. Vous le voyez, et puis tous reprennent sur Internet ses arguments sécuritaires. Ils dénoncent la criminalité qui mine le pays et ils demandent tous un changement radical.
Alors François, comment explique-t-on au Brésil que ces footballeurs, anciennes gloires internationales, qui ont vécu dans d'autres pays, se soient laissés convaincre par l'extrême droite et n'hésitent plus à le dire?
Alors, la presse brésilienne rappelle le contraste avec l'exemple qui a été donné par leurs aînés footballeurs sous la dictature militaire. Rappelez-vous, elle a dirigé le pays de 1964 à 1985. Et à l'époque, plusieurs joueurs du Corinthians, un très grand club brésilien, avaient alors participé au mouvement qui réclamait le retour de la démocratie à l'époque. Parmi eux, les célèbres Socrates, Casagrande et Vladimir, par exemple. Et aujourd'hui, la situation a bien changé. Ces footballeurs qui appuient l'extrême droite sont en fait le reflet d'une société brésilienne qui se dit prête à élire Jair Bolsonaro. Il a réussi à séduire notamment les jeunes des quartiers populaires, des quartiers déshérités, ces favelas. Et la campagne électorale a eu lieu sur Internet, sur les réseaux sociaux. En prenant position pour Bolsonaro, les footballeurs stars d'Instagram ont donc un impact fort sur le scrutin.
Merci beaucoup François Cardona en ligne de Rio. Précisons tout de même que d'autres anciens joueurs brésiliens, eux, refusent l'extrême droite, comme Juninho dans un entretien au quotidien espagnol El País. L'ancien milieu de terrain lyonnais s'engage contre Jair Bolsonaro et fustige le choix inverse de ses compatriotes footballeurs. Un bref détour par la Ligue des Nations en Europe. Deux résultats à noter ce soir. L'Italie est allée gagner en Pologne in extremis 1-0 grâce à un but de Cristiano Biraghi, le défenseur de la Fiorentina, dans le temps additionnel. Et la Russie a battu la Turquie 2-0. Par ailleurs, deux infos concernant l'équipe de France. Florian Thauvin est forfait pour la réception de l'Allemagne mardi au Stade de France. Il est victime de douleurs au pied droit et ne sera pas remplacé. Et Laurent Koscielny a confirmé ce soir chez nos confrères de Canal+ qu'il mettait un terme à sa carrière internationale à 33 ans. Le défenseur d'Arsenal avait raté la Coupe du Monde en raison d'une rupture du tendon d'Achille droit. C'était trop beau pour durer. La première journée de la phase de groupe de la Coupe d'Europe de rugby était partie sur de bonnes bases pour les clubs français, avec 3 victoires en 3 matchs. Mais cette journée de dimanche a été le parfait opposé de la veille. 3 autres équipes engagées, 3 défaites. La série noire a commencé par Lyon, battu 30-21 à Gerland par les Gallois de Cardiff. Apprentissage difficile pour le Loup, novice dans la principale compétition européenne. Et déjà en difficulté dans un groupe dominé par les Anglais de Saracens, vainqueur chez les Écossais de Glasgow, 13-3. Pas plus de réussite ensuite pour Castres. Défaite des champions de France sur le terrain des Anglais de Gloucester, 19-14. Il repart tout de même avec le point de bonus défensif. C'est toujours ça de prix pour le manager Christophe Furios, même si son équipe, estime-t-il, aurait mérité mieux.
On a fait un match solide, mais il y a trop d'erreurs à des moments importants du match qui ne nous permettent pas de mieux nous installer dans le match. Même si à la fin, on a la balle de match hein, et on doit marquer. Voilà, on n'a pas su bien s'installer dans le match. Quoi. Si on avait le bonheur de gagner ce match, et ça nous mettait vraiment en bonne position, donc avant de recevoir, etc. Mais là, on a pris un point. Donc, écoute, on est encore dans la course. Je trouve que c'est notre meilleur match. Enfin, c'est le match le plus solide qu'on ait fait à l'extérieur depuis que je suis à Castres en Champions Cup. Donc, je vois aussi point positif quand même. C'est une belle équipe, quoi. Je suis déçu. Je suis déçu parce que je pense qu'on pouvait gagner le match. Ouais, je pense qu'on pouvait gagner le match. À la fin, on pouvait gagner le match.
Christophe Furios au micro de Radio France au classement de sa poule. Castres est néanmoins dernier, tandis que Gloucester a pris la tête. Quant à Toulon, il confirme à ses dépens son mauvais début de saison en championnat en s'inclinant à domicile devant les Anglais de Newcastle 26-25. Un RC était indiscipliné, sanctionné par 3 cartons jaunes pris en cours de match qui l'ont à chaque fois réduit à 14 pendant 10 minutes. Trop d'approximations et de fautes grossières ont plombé les Toulonnais, pourtant auteurs de 3 essais. Le dernier du talonneur Guilhem Guirado, conscient au micro de France Télévisions des manques de son équipe.
C'est sûr qu'on ne s'est pas mis dans les conditions idéales pour préparer un match de ce niveau, même si on est bien rentré dans le match. On a vu qu'on manquait de précision et surtout cette seconde mi-temps où on avait le vent et on a très très mal géré. Et on s'est mis tout seul un petit peu dans la merde, excusez-moi de dire ça, mais... Donc voilà, c'est dommage, c'est regrettable, mais bon, on sait très bien que dans la Coupe d'Europe, rien n'est joué d'avance, même si on s'est tiré une balle dans le pied. On va continuer d'y croire et on va se battre pour aller chercher un résultat à Edimbourg. Il faut dire qu'il y a beaucoup de travail devant nous, hein, il n'y a pas secret, ça va se voir aux images lundi quand on va débriefer. Et ce que j'avais demandé aux joueurs et ce que j'avais dit aux joueurs, c'est que surtout la Coupe d'Europe, ça se joue en 6 matchs. Et là, on l'a très très mal commencé, donc la qualification, aujourd'hui, on va la mettre de côté et on va penser uniquement à ce match d'Edimbourg.
Edimbourg, où les Toulonnais, 3e du premier classement de leur groupe, iront samedi prochain dans cette poule 5. C'est Montpellier qui a pris les commandes avec sa victoire hier sur Edimbourg, 21-15. Fan de NBA, réjouissez-vous, votre spectacle de basket favori est en fin de retour. 30 équipes prêtes à en découdre à partir de mardi dans un championnat complètement à l'ouest depuis plusieurs années et peut-être encore pour ce nouvel exercice car les doubles tenants du titre, les Golden State Warriors, seront encore l'équipe à battre. Ses adversaires ont eu beau se renforcer, on en parlera d'ailleurs dans quelques minutes, la franchise d'Oakland paraît encore plus forte que jamais et prête à s'offrir un rare triplé d'affilée. Reportage de notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala.
There's the buzzer. There's a new dynasty in the NBA. The Golden State Warriors.
Le 8 juin dernier, Golden State balaye Cleveland en finale et les commentateurs américains saluent alors la nouvelle dynastie de la NBA. Normal, c'est le deuxième titre d'affilée des Warriors, le troisième en 4 ans. Ils visent maintenant le three-peat, comme on dit ici, 3 titres de suite. De quoi se faire une place aux côtés des Lakers de Kobe Bryant ou des Bulls de Michael Jordan. L'entraîneur Steve Kerr, qui a connu ça à Chicago comme joueur, est serein.
On n'a rien à perdre. On a gagné 3 des 4 derniers titres. Notre place dans l'histoire de cette ligue est assurée. Alors je ne crois pas que les gars aient beaucoup de pression.
D'autant moins de pression que l'équipe a reçu cet été le renfort de DeMarcus Cousins, peut-être le meilleur pivot de NBA. Mais le joueur se remet d'une grave blessure au tendon d'Achille. Il ne devrait pas revenir avant le mois de décembre.
Ma motivation est encore plus forte. Je suis comme un dingue en ce moment. Je pense que vous allez voir un nouveau DeMarcus sur le parquet. J'ai hâte de pouvoir rejouer, ne serait-ce que pour montrer tous les efforts que j'ai réalisés pour revenir de cette blessure. Bien sûr, on va devoir faire en sorte que ça marche, mais sur le papier, le potentiel de cette équipe est terrifiant.
Terrifiant, c'est le moins qu'on puisse dire. Une fois Boogie Cousins de retour, les Warriors aligneront 5 All-Stars sur le parquet, mais l'intégration du pivot va demander du travail. Cousins a marqué en moyenne 21 points par match dans sa carrière. Il rejoint 5 majeurs déjà riches en scoreur avec Steph Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. KD, justement, ne s'inquiète pas.
Notre meilleure équipe, ça a toujours été un 5 sans joueurs de grande taille, avec Draymond Green et moi à l'intérieur. Maintenant, avec DeMarcus, on a de nouvelles combinaisons possibles. On va pouvoir jouer en pick and roll. Il y a vraiment de quoi faire. Mais c'est au coach de trouver le bon équilibre. Je sais qu'il va faire du bon boulot.
Difficile donc de trouver des faiblesses dans cette équipe. Les chevilles fragiles de Steph Curry, le tempérament parfois volcanique de Cousins, ou les Houston Rockets éliminés de justesse en playoff, se dresseront peut-être sur la route de Golden State. Draymond Green prévient toutefois que le principal danger vient des Warriors eux-mêmes.
M'asseoir en face de vous et dire qu'on va avoir le même enthousiasme que la première année, ce serait mentir. C'est impossible. Mais on a tous envie de continuer l'aventure. Alors, il faut faire comme si on n'avait aucun titre. C'est un cliché et c'est impossible à faire. Mais il faut essayer de se rapprocher le plus de cette mentalité. C'est mon état d'esprit à l'approche de chaque saison.
Une saison qui pourrait être la dernière pour cet effectif. Cousins n'a signé qu'un an au salaire minimum. Thompson et Durant seront libres de leur mouvement en juin prochain. Curry refuse d'y penser.
Tout ça, ça n'a pas d'importance pour l'instant. On en reparlera autant que vous voulez après les 5 matchs de pré-saison, les 82 matchs de la saison et j'espère les 16 victoires en play-off. Ça fait partie de notre métier, mais les meilleures équipes arrivent à mettre ça de côté pour jouer au basket et profiter des opportunités qui se présentent. Et je pense qu'on a les gars capables de faire ça.
Turn that off when they need to.
Comme le signe de la fin d'une époque, les Warriors vivent leur dernière saison à l'Oracle Arena. L'an prochain, les Warriors quitteront la salle d'Oakland pour le Chase Center, une enceinte $1 milliard de l'autre côté de la baie, à San Francisco. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Mais les habitués de l'Oracle Arena devront encore patienter un petit peu pour l'entrée en scène de Golden State à domicile, puisque leur premier match aura lieu à Oklahoma City dans la nuit de mardi à mercredi en Europe. Alors, les Warriors, grands favoris, sans doute, mais la concurrence va évidemment tout faire pour tenter de leur compliquer la tâche au printemps prochain, à commencer par les vieux rivaux californiens, les mythiques Lakers de Los Angeles. Bonsoir, Michael Dacosta.
Bonsoir.
Autre correspondant aux États-Unis, Michael, les Lakers qui ont vécu une nouvelle révolution durant l'été avec l'arrivée de la superstar LeBron James. Son arrivée était vraiment le grand feuilleton de l'intersaison.
Oui, ça a tenu en haleine le monde du basket et surtout les fans de Cleveland Cavaliers, l'ancien royaume du King, qui a eu véritablement son cauchemar se réaliser. En effet, après 11 saisons dans le royaume, le natif de Akron, en banlieue de Cleveland, de cette ville industrielle en crise, a décidé de mettre les voiles, direction les spotlights de la Californie, des mythiques Lakers de Los Angeles. avec un contrat de 134 millions sur 4 ans. LeBron James succède donc au meeting Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et autres Kobe Bryant dans la franchise au maillot pourpre et or. Après des années de disette, les Lakers n'ont pas joué les playoffs depuis plusieurs saisons. Ils comptent sur le meilleur joueur du monde pour essayer de redorer leur blason. Et avec un recrutement assez intéressant, ils essayent de retrouver leur lustre d'antan dans un futur proche.
Alors, l'ouverture de la saison dans la nuit de mardi à mercredi. Avant cela, les équipes se sont mises en jambes avec les traditionnels matchs amicaux de pré-saison. Quelles équipes et joueurs se sont mis en valeur durant ces rencontres ?
À côté de joueurs, bien sûr, les premiers pas de LeBron ont été très suivis, même s'il n'a pas beaucoup joué. Mais il a eu une belle sortie dans une victoire justement contre les Golden State Warriors avec 15 points du rebond, 5 passes en une vingtaine de minutes, qui a donné un petit peu l'eau à la bouche aux fans Angelinos. Un autre joueur qui a brillé, c'est l'ailier grec d'origine nigérienne Giannis Antetokounmpo, le joueur de Milwaukee, qui a vraiment beaucoup progressé et qui a montré sur les premiers matchs qu'il avait ajouté un tir extérieur à son arsenal. Concernant les rencontres qui ont marqué les esprits, bien sûr, il y a eu des duels Warriors-Lakers qui ont été très disputés, avec quelques joueurs expulsés pour des petits échanges joueurs sur le terrain, et des audiences qui ont marqué l'histoire, parce que c'est les plus grosses audiences de l'histoire de la télévision publique pour des matchs de préparation. Et en fait, comme chaque saison, il y a toujours plusieurs équipes qui se préparent à l'étranger, et cette année, les équipes qui ont été choisies sont les Sixers de Philadelphie de Joel Embiid, qui ont affronté les Mavericks de Dallas à 3 reprises en Chine, et qui ont fait leur camp de préparation là-bas et disputé 3 matchs amicaux sur le sol chinois.
Alors les Warriors vont essayer donc de faire le triplé. Ils veulent essayer de suivre en cela les traces des Bulls de Michael Jordan autour de ce même exploit il y a maintenant 2 décennies. Quelles équipes pourraient venir concurrencer ces doubles champions en titre ?
Tout d'abord côté Ouest, leur concurrent principal de la saison dernière, les Houston Rockets de James Harden, Chris Paul et du pivot suisso-congolais Clint Capela, peuvent jouer un rôle vraiment de poil à gratter. Ils sont passés pas loin de les faire tomber l'année dernière. Ils peuvent rejouer ce rôle de poil à gratter cette saison. Et aussi le Thunder d'Oklahoma, l'ancienne équipe de Kevin Durant, qui compte sur Russell Westbrook et leur meneur allemand d'origine gambienne, la nouvelle recrue Dennis Schroeder, qui pourrait aussi embêter la franchise de San Francisco. Bien sûr, à un autre niveau, sans oublier les Spurs de San Antonio, qui sont quand même des challengers, même sans Tony Parker, qui a quitté la franchise cet été après 17 saisons de bon et mauvais service dans le Texas. Sur la conférence Est, il y a quand même 2 équipes qui paraissent un petit peu au-dessus du lot, comme les Celtics de Boston, les Sixers de Philadelphie, du pivot camerounais Joel Embiid. Le duel sera explosif, il y a eu beaucoup de trash talking pendant la saison. Ces équipes se sont parfaitement aussi renforcées, donc elles seront très sévèrement pour jouer le ticket pour les finales NBA du mois de juin prochain.
Alors un point sur les joueurs africains, vous parliez à l'instant de Joel Embiid, ils sont 19 au total dans la Ligue, c'est un nouveau record, dont donc Joel Embiid qui pourrait bien s'immiscer dans la course pour le titre de meilleur joueur.
Oui, c'est son objectif annoncé, on sait que Joel Embiid a tendance à confirmer et à exprimer ses ambitions, il a tendance à les confirmer, il parle et il exécute, donc on le voit, on l'a vu sur les matchs de pré-saison, il a été époustouflant, il est plus affûté que jamais, il est vraiment en forme, et il souhaite marquer l'histoire, il a annoncé déjà que son objectif c'était d'être MVP dans la saison, les 2 saisons à venir, et il veut marquer l'histoire pour l'Afrique aussi, il veut devenir le premier joueur africain qui arrive à ce sommet-là. Bien sûr, la concurrence sera rude avec les clients habituels, LeBron James, Kevin Durant, etc. Mais rien n'est impossible pour lui tellement son potentiel est sans limite. Du côté du reste des joueurs africains, on pourra toujours suivre, bien sûr, les performances solides de Serge Ibaka, des Toronto Raptors, mais aussi du Sénégal et Gorgui Dieng, des Wolves de Minnesota. Une petite note, une attention toute particulière sera portée à Mohamed Bamba, le pivot XXL des Orlando Magic, qui est né aux États-Unis de parents ivoiriens. Et qui a été un phénomène à l'université de Texas et dans ses catégories de jeunes aux États-Unis. Il s'est assuré de très très près pour ses premiers pas. Et il est bien sûr aussi l'un des favoris pour être élu rookie de l'année à la fin de la saison régulière.
Merci beaucoup, Michael Dacosta, en direct de New York. Ajoutons qu'un joueur n'entamera pas cette saison de NBA, c'est Joakim Noah. C'est pas vraiment une surprise. Le pivot français ne fait plus partie des Knicks. Il a été libéré de son contrat hier après 2 saisons ratées entre blessure à un genou, suspension pour 2 pages et exclusion de l'équipe au début de l'année après une altercation avec son entraîneur. Il touchera néanmoins l'intégralité du salaire correspondant aux 2 années qui lui restaient à honorer, soit quand même 33 millions d'euros. Dernière info en bref, pour être tout à fait complet sur l'actualité, eh bien c'est la victoire de Novak Djokovic au Masters 1000 de tennis de Shanghai. Le Serbe a battu facilement le Croate Borna Koric en 2-7, 6-3, 6-4 et sera officiellement demain le nouveau numéro 2 mondial derrière Rafael Nadal et devant Roger Federer. Voilà, Mondial Sport se referme. Merci à Valentin Vaner pour la réalisation. Pour écouter l'émission en podcast, pas de souci, RFI.fr ou la page Facebook. Vous pourrez retrouver un lien pour réécouter l'émission. Dans un instant, 24 heures en France, Loïc Bussy.